Partenaire, le magazine des Amis des Chiens Guides. Association de Chiens Guides d'Aveugles de Lyon et du Centre-Est, septembre 2024. Sabrina Di Francesco, malvoyante, responsable de la délégation de la Nièvre, participait cet été au relais de la Flamme Olympique. Ici, sur la piste de relais entourée de spectateurs, elle saisit la flamme que lui transmet la relayeuse précédente. Elles sont toutes les deux vêtues de blanc. Au sommaire de ce numéro, piste 2. Les Rotary Club de Saint-Étienne, soutien de l'association. Piste 2. Nouveau partenaire, Viatrice. Piste 2. Délégation 69, Salon Handicap. Piste 3. Édito de Roland Donzel. Piste 4. Au cœur de l'assaut. Portrait. Manuel Mangoli, vétérinaire et bien plus. Piste 5. Au cœur de l'assaut, quand nos chiens sont remis à leur maître déficient visuel. Piste 6. Au cœur de l'assaut, un événement convivial pour les membres de l'association, la journée de l'association. Piste 7. Au cœur de l'assaut, un 400e chien pour l'association de chiens guides d'aveugles de Lyon et du Centre-Est. Piste 8. La vie des chiens. Les arrivées. Piste 8. Les certificats d'aptitude de guidage. Piste 9. La vie des chiens. Retraite. Piste 9. Hommage. Piste 9. Réorientation. Piste 10. Dossier. Quel rôle pour les territoires? Isabelle Bartasso, responsable de la délégation de l'Ain. Piste 11. Dossier. Quel rôle pour les territoires? Sur le territoire 71, Christelle Vaupré, une infatigable ambassadrice. Piste 12. Dossier. Quel rôle pour les territoires? Chambéry. Un exemple de mieux vivre ensemble. Anne Vérolet, responsable du territoire de la Savoie, 73. Piste 13. Dossier. Quel rôle pour les territoires? Travailler main dans la main avec les élus. Piste 13. Quelle place pour le chien dans la ville? Piste 14. Actu. La flamme olympique. Piste 14. Encart leg de la FFAC. Important. Le chien guide est remis gratuitement. Logo de l'association des chiens guides d'aveugles de Lyon et du Centre-Est. Piste 2. Actu.
Les Rotary Club de Saint-Étienne, soutien de l'association. Si les Lions Clubs sont depuis toujours engagés pour la vue, les Rotary Clubs régionaux se mobilisent également pour nous permettre de fournir toujours davantage de chiens guides à celles et ceux qui en ont besoin. Cette année, notre vice-président s'est rendu le 24 avril à Saint-Étienne pour une émouvante cérémonie de remise de chèques. À l'initiative d'Alain Gilbert et de Christian Dupire, les Rotary Clubs de Saint-Étienne-Forez et de Saint-Étienne-Trois-Vallées nous ont fait un don de 6 347 euros. Merci à tous leurs membres qui se sont mobilisés pour réunir cette somme. Merci pour les actions engagées en faveur de la déficience visuelle.
Pierre-Marie Micheli lors de la remise de chèques des Lions Club de Saint-Étienne. À ses côtés, messieurs Alain Guibert et Christian Dupire. Il est accompagné de Patricia Varé et Yucatan, ainsi que de son chien guide, Lyrix.
Un nouveau partenaire, Viatrice. Spécialisée dans la fabrication, le conditionnement et la commercialisation de produits pharmaceutiques, la société Viatrice Santé, dont l'un des sièges sociaux est à Lyon, a souhaité s'engager aux côtés de l'association de chiens guides d'aveugles de Lyon et du Centre-Est et financer l'éducation d'un chien guide d'aveugle. Mais ce n'est pas tout. Touchés par notre cause, au-delà du financement prévu par l'entreprise elle-même, les collaborateurs de Viatrice ont eu à cœur de s'impliquer eux aussi dans la vie de l'association en proposant de devenir famille d'accueil. Pour un temps court, un week-end, le temps de vacances, etc., ou plus long, à savoir sur toute la durée de l'éducation d'un chien guide d'aveugle, ceux qui le souhaitent pourront participer à cette grande chaîne de solidarité qui permet de remettre gratuitement des chiens guides à des personnes déficientes visuelles. Enfin, les salariés de Viatrice et les membres et bénéficiaires de l'association, accompagnés de leurs chiens, participeront ensemble le dimanche 6 octobre à la course Run in Lyon, célébrant ainsi leur engagement mutuel. Rendez-vous est pris pour cette journée qui s'annonce riche en couleurs et en émotions. Délégation 69, Salon Handicap. Le Salon Handicap était de retour à Lyon cette année. Ce sont plus de 200 exposants qui se sont retrouvés à Eurexpo pour proposer des solutions et des outils destinés à faciliter le quotidien des personnes porteuses de handicap. Les 5 et 6 juin, toute une équipe de familles d'accueil, maîtres de chiens guides et salariés, se sont relayés pour animer le stand de l'association de chiens guides d'aveugles de Lyon et du Centre-Est. Les élèves chiens guides et chiens guides en activité, tantôt calmes, tantôt joueurs, n'ont pas manqué de se faire remarquer, et cela pour notre plus grand plaisir. Les chiens ont attiré de nombreux curieux, mais aussi des personnes intéressées, à la fois pour devenir famille d'accueil de nos élèves chiens guides, ou pour adopter nos chiens à la retraite. Nous avons aussi eu des demandes de la part de personnes déficientes visuelles ou de leurs aidants concernant les démarches à suivre pour obtenir un chien guide dans les années à venir. C'était aussi l'occasion d'aller à la rencontre d'autres organisations qui œuvrent pour la déficience visuelle, mais pas seulement. Le rendez-vous est pris. Le prochain salon Handicap à Eurexpo aura lieu en juin 2026.
Régis Ducruy et son chien Népal sur le stand de l'association au Salon Handicap. Piste 3, édito. Portrait de Roland Donzel.
Chers donateurs, chers partenaires, chers bénévoles, chers amis de l'association de chiens guides d'aveugles de Lyon et du Centre-Est, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous vous adressons ce nouveau numéro de notre magazine partenaire, marqué par de belles initiatives et un engagement collectif toujours plus fort. Ce numéro porte sur les responsables de territoire, véritables ambassadeurs de notre cause. Leur action, relayée sur les 11 départements que nous couvrons, contribue à sensibiliser le public à la déficience visuelle et au rôle clé du chien guide d'aveugle. Grâce à eux, notre mission prend racine dans les communautés locales, permettant de tisser des liens précieux avec les acteurs de terrain. Notre portrait du mois porte sur le docteur Manuel Mengoli, vétérinaire comportementaliste qui partage avec nous son approche holistique du bien-être animal et de la médecine vétérinaire. Enfin, nous mettons à l'honneur les actions qui rendent notre mission possible, comme celle de la société Viatrice Santé, dont l'engagement va bien au-delà du soutien financier. Ce partenariat illustre à quel point les entreprises peuvent jouer un rôle actif dans la formation de nos chiens guides, mais aussi dans la solidarité humaine qui les entoure. Au moment de boucler ce numéro, nous apprenons avec une profonde tristesse le décès de Jacques Perrin, ancien président de la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles. Figure incontournable du mouvement, Jacques a joué un rôle essentiel dans l'organisation du premier congrès international des chiens guides à Cannes en 1972, visant à partager les bonnes pratiques dans l'éducation des chiens guides entre écoles du monde entier. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille. Nous ne pouvons conclure cet édito sans rappeler que chaque chien remis est le fruit d'un travail d'équipe soutenu par la générosité de nos donateurs et partenaires. Ensemble, nous continuons à ouvrir des chemins vers l'autonomie et la confiance pour les personnes déficientes visuelles. Bonne lecture à tous et à très bientôt pour de nouveaux moments partagés.
Infos et contacts. Association de chiens guides d'aveugles de Lyon et du Centre-Est. Siège social, 14 rue du Général Plessier, 69002 Lyon. Bureau administratif et centre d'éducation, 162 avenue Édouard Herriot, 01 600 Misérieux. contact@chienguidelyon.org, www.chienguidelyon.org, chienguide au pluriel et tout attaché. L'association est présente sur 11 départements. 1 01 Côte d'Or 21, Isère 38, Jura 39, Loire 42, Nièvre 58, Rhône 69, Saône-et-Loire 71, Savoie 73, Haute-Savoie 74 et Yonne 89. Le centre d'éducation est situé à Misérieux 01 et le siège social à Lyon 69. Soutenez-nous. Aujourd'hui, plus que jamais, aidez-nous à poursuivre notre mission. Contribuez à la formation d'un formidable duo, Maître Chien Guide. Rendez-vous sur chienguidelyon.org. Directeur de la publication, Roland Donzel. Comité de rédaction, Catherine Giraud, Pierre-Marie Micheli, Caroline Perrier, Clarisse Reynaud et Pascal Stoder. Réalisation audio, Virgile Jouvenet. Avec les voix de Lucie Castex, Anne Guibert, Lily, Christophe Quinzoni, Roland Donzel, Jess et Virgile Jouvenet. Piste 4. Au cœur de l'assaut. Portrait.
Manuel Mengoli, vétérinaire comportementaliste et bien plus. Manuel Mengoli est docteur vétérinaire. Diplômé de l'école de Bologne en Italie, il est aussi titulaire d'un master en médecine comportementale à l'université de Pise et titulaire d'un doctorat en physiologie vétérinaire. Il intervient auprès des élèves moniteurs dans le cadre de leur formation dispensée par l'AFH2A et aborde avec eux l'éthologie vétérinaire. Son objectif ? Leur donner les compétences pour identifier et reconnaître des symptômes associés à des pathologies parfois organiques ou à des altérations comportementales, comme l'agressivité, la réactivité ou les problèmes de séparation, qui pourraient être potentiellement liés à une base biologique associée ou sous-jacente. Il cite « L'alimentation est un vrai sujet, surtout pour les chiens de type retrievers. Il existe souvent des pathologies digestives associées à des altérations du comportement alimentaire comme le pica, la coprophagie ou la boulimie. Si l'on modifie uniquement l'alimentation, cela ne guérit rien car l'animal a encore plus faim. La cause racine n'est donc ni identifiée ni traitée. » Manuel Mengoli invite donc les moniteurs à éveiller leur regard, à être toujours curieux, à collecter et à croiser des informations pour grandir avec une vision plus vaste, concept de médecine du travail pour qualifier et accompagner. Il dispense aussi un module sur l'éthique animale, avec pour objectif de faire évoluer ensuite la réflexion des élèves vers l'idée de bien-être en général, appliquée aux animaux qui vivent avec nous, puis appliquée aux chiens guides qui sont des coéquipiers pour leurs bénéficiaires. Intégrer le bien-être et l'éthique pour des animaux qui sont au contact de beaucoup d'acteurs permet d'évoluer dans un système qui fait de la personne qui passe du temps avec le chien une véritable sentinelle, qui remonte les informations nécessaires pour prendre les meilleures décisions concernant l'animal et son équilibre psychique et physique. Il cite « Si l'on prend l'exemple de la retraite, un animal qui a travaillé toute sa vie, qui a eu des interactions sociales riches, aura du mal à rester sans rien faire dans un jardin. » En revanche, on peut moduler sa fin de vie professionnelle. Il peut devenir par exemple un bon prof pour des chiots en formation qui verront en lui un chien bien dans ses pattes, un modèle pour eux. L'éducateur, le moniteur ou la famille d'accueil qui passent leur journée avec l'animal sont les mieux à même de capter et de qualifier ce que vit l'animal dans une période sensible par exemple ou dans ses périodes de transition. Et ils doivent être vigilants, ne pas faire de généralité ou de couper-coller. Car il n'y a pas deux animaux similaires, même au sein d'une fratrie. C'est d'autant plus important pour un chien guide qui grandit de façon spécifique. Il a une maman, une famille d'accueil, une école, des frères et sœurs, un bénéficiaire, et revient parfois en famille d'accueil. Cela nécessite beaucoup de flexibilité émotionnelle et mentale. Or, comme l'humain, le chien guide ne peut pas grandir dans un état de mal-être. Nos qualités cognitives ne peuvent grandir que quand on est dans un bon climat émotionnel. Étudier les comportements de l'animal. Pour Manuel Mengoli, l'analyse des comportements est fondamentale. Une altération du comportement peut être liée à l'éducation, mais aussi à des symptômes qui sont l'expression d'une pathologie ou de la douleur, par exemple. Or, il est impossible de séparer le mental, l'émotionnel de la dimension corporelle, pour les humains comme pour les animaux. Pour cela, il utilise le modèle PNEIA, psycho-neuro-endoctrino-immunologie animale, un modèle holistique clinique qui lui permet de faire des filtres et de traiter la globalité des pathologies, quelle que soit leur origine. Tout ça permet d'étudier les interactions bidirectionnelles entre la psyché et les différents systèmes biologiques. Notre corps et notre mental sont fusionnés depuis notre naissance et on ne peut pas les traiter séparément, dit-il. En France, où il a commencé à travailler avec les réseaux de siens d'assistance, il a choisi de suivre une formation universitaire en droit animalier. Car s'il a toujours été touché par la cause du bien-être animal en tant que vétérinaire, il estime qu'il ne disposait pas forcément des mots justes, du langage pour échanger avec les autres professionnels impliqués dans le bien-être animal. Avocats, institutions, associations. Ce parcours riche et atypique lui a permis d'être perçu aujourd'hui comme un expert des troubles du comportement, de mettre en place des thérapies pour améliorer le bien-être animal et de figurer parmi les lanceurs d'alerte défenseurs d'une santé unique, partagée, homme-animal, baptisée One Health, qui commence à percer auprès du grand public. Il dit « Nous sommes sentinelles pour nos animaux et ils sont sentinelles pour nous. » L'intégration de l'animal de compagnie dans une famille de plus en plus fusionnelle amène les familles à solliciter des vétérinaires sur de la bobologie et des pathologies qui peuvent être traitées différemment. Ainsi, une fois la pathologie identifiée, il va utiliser la médecine allopathique quand c'est nécessaire, mais aussi parfois des thérapies intégrées et préventives. Il va aussi travailler avec des acupuncteurs, des diététiciens, des ostéopathes, etc. Avec sa société, Netos, Manuel intervient en Europe au sein d'écoles vétérinaires, écoles d'ostéopathie, dans des écoles de médiation animale, etc. Il forme des professionnels de la santé animale qui ne sont pas nécessairement vétérinaires, ostéopathes animaliers, ASV, éducateurs spécialisés en proprioception, comportementalistes. Pour lui, il est important de transmettre et de former les éducateurs de demain, tout comme il est important pour l'éducateur de connaître l'ergonomie appliquée à la vie de l'animal. La dimension éthologique et le côté mental de l'animal sont des aspects que l'éducateur voit tous les jours. L'élément bien-être est quelque chose qui qualifie le travail de l'animal. Il dit « Si on élève l'animal, par exemple le chien guide ou le chien d'assistance comme un coéquipier, il faut qu'il soit intégré dans une dimension de travail partagé et soigné à ce titre. » Mais ce soin peut aussi bien être un repos ou une ITT de 15 jours qu'une réforme ou une réorientation, il dit. L'important, c'est d'être attentif aux changements de comportement du chien. Cela permet d'accéder plus rapidement aux problèmes cliniques. Beaucoup de jeunes sont intéressés par ces formations. Emmanuel évoque ses super élèves et l'espoir que ceux-ci font naître d'une société plus attentive à sa relation avec les animaux et au bien-être animal. On a parfois besoin d'un interprète pour parler à nos animaux. Et il est important de solliciter des professionnels, car il y a de la science derrière tout ça. Chaque animal est unique. Il y a des chiens timides comme des enfants timides. Ceux-ci ne doivent pas être surstimulés.
Manuel Mangoli, assis dans l'herbe fleurie, encadré de deux chiens noirs et blancs à poils longs, sourit à l'objectif. Il pose sa main sur le flanc du chien allongé près de lui. Manuel Mangoli, intervenant lors d'une table ronde, s'exprime au micro sous le regard concentré de son intervieweur. Piste 5, au cœur de l'assaut.
Quand nos chiens sont remis à leur maître d'épuisement visuel. 9 remises depuis avril 2024. Tismi a été remise à Agnès Faure en avril 2024. Carte d'identité, Tismi, femelle labrador sable, monitrice, Adeline Tevenet, éducateur, Martial Hercher, famille d'accueil, Brigitte et André Dovre.
Agnès Faure et Tismi devant le canal d'Annecy. Agnès est appuyée à la balustrade, Tismi assise à ses pieds.
Tatou a été remis à Marie-Jeanne Foglino en avril 2024. Carte d'identité, Tatou, mâle labrador noir, monitrice, Laura Gintran, Première remise, éducatrice, Caroline Perrier, famille d'accueil, Leslie et Michel Chiche.
Marie-Jeanne Foglino lors de la remise de Tatou. La photo est prise devant un fond arboré. Tatou, labrador noir, est assis au pied de sa nouvelle maîtresse qui accompagne Leslie et Michel, famille d'accueil, et Caroline et Laura, éducatrice.
Togo a été remis à Christophe Séry en avril 2024. Carte d'identité, Togo, mâle labrador sable, monitrice, Adeline Tevenet, éducateur, Marcel Hercher, famille d'accueil, Isabelle et Pascal Bartasso.
Isabelle et Pascal Bartasso, famille d'accueil de Togo, entourent Christophe Séry lors de la remise. Togo est assis à ses pieds.
Topaz a été remis à Stéphania Rovella en juin 2024. Carte d'identité. Topaz, mâle labrador sable. Monitrice, Adeline Séry, première remise. Éducateur, Marcel Hercher. Famille d'accueil, François et Stéphanie Griot, Régine et Bernard Verger.
Stéphania Rovella et Topaz lors de la remise. Elle pose avec Stéphanie et François, famille d'accueil, et les éducateurs Martial et Adeline.
Story a été remis à Séverine Dejeu en avril 2024. Carte d'identité, Story, mâle labrador, golden sable, éducatrice, Capucine Arson, famille d'accueil, Laure Noiret.
Story, Séverine Dejeu accroupie l'un à côté de l'autre devant un décor mural aux couleurs vives. Séverine caresse le poitrail de Story.
Tara a été remise à Nadia Aladja en avril 2024. Carte d'identité, Tara, femelle labrador noir. Éducatrice, Cécile Bailly. Famille d'accueil, Martine et Christian Fifre.
Remise de Tara dans le parc de l'école. Tara, labrador noir, est assise devant Nadia, sa nouvelle maîtresse, entourée de Martine et Christian, famille d'accueil, et de Cécile, l'éducatrice de Tara.
Target a été remise à Angélique Duprat en juin 2024. Carte d'identité, Target, femelle labrador sable, monitrice Laura Gintran, éducatrice Caroline Perrier, famille d'accueil Nicolas et Audrey Malgras.
Angélique Duprat et Target en promenade dans les champs. Angélique tient au harnais Target, labrador sable qui avance à ses côtés.
Stickle a été remis à Roselyne Souton en juin 2024. Carte d'identité, Stickle, mâle labrador noir, éducatrice Cécile Bailly, famille d'accueil, famille Guibert.
Roselyne Souton, lors de la remise de Skittle, labrador noir, allongé dans l'herbe. Trois adolescentes et une adulte l'entourent, deux des jeunes filles sont assises à côté du chien et lui prodiguent quelques caresses.
Twix a été remise à Sylvie Amar en juillet 2024. Carte d'identité Twix, femelle labrador sable, monitrice. Adeline Séry, éducateur, Martial Hercher, famille d'accueil, famille Guibert.
Sylvie Amar et Twix en promenade. Piste 6, au cœur de l'assaut.
Un événement convivial pour les membres de l'association. Samedi 15 juin s'est déroulée la journée de l'association, une première et certainement pas la dernière. L'association de chiens guides d'aveugles de Lyon et du Centre-Est a invité toutes celles et tous ceux qui participent à la vie de l'association. Bénévoles et familles d'accueil, salariés, adhérents et membres du conseil d'administration, bénéficiaires, à partager une journée tous ensemble. La centaine de participants a pu profiter du beau temps estival pour échanger, rire et jouer, puis déjeuner autour de grandes tablées en plein air, avant de poursuivre l'après-midi dans une atmosphère plus studieuse. Nicolas Baltenec, enseignant-chercheur à l'Université Lyon 2, et trois de ses étudiantes sont venus présenter leur travail de recherche en psychologie, menée à partir de différentes études sur la déficience visuelle et le lien d'un maître avec son chien guide. La journée s'est terminée pour certains après cela, et pour nos adhérents, place à l'Assemblée Générale 2024. Lors de cet AG, l'association a procédé à l'élection d'un nouveau trésorier, Olivier Durand, tandis qu'Isabelle Bartasso, précédemment en charge de la trésorerie, a été nommée secrétaire adjointe.
Cadre photo personnalisé permettant de se faire tirer le portrait, encadré de deux labradors, un sable et un noir, dans un décor fleuri et végétalisé. Deux visiteurs cessés au parcours d'obstacles, guidés par deux labradors en laisse, en suivant les conseils de Sandrine, instructrice de locomotion. Piste 7, au cœur de l'assaut.
Un 400e chien pour l'association de chiens guides d'aveugles de Lyon et du Centre-Est. Si en 2025, l'association créée par Daniel Manin en 1985 s'apprête à souffler ses 40 bougies, 2024 a été aussi un joyeux millésime, celui de la remise de son 400e chien. 400 chiens remis à 400 personnes déficientes visuelles, leur permettant de retrouver davantage de liberté, d'autonomie et de liberté dans les déplacements. C'est donc avec beaucoup d'émotion que Pascal Dolkopolov, administrateur et maître chien guide de l'association, a présenté Squid, une femelle labrador noire, à l'assemblée réunie dans les salons de l'hôtel de ville de Lyon, en présence des élus en charge du handicap et du bien-être animal, et de partenaires tels que la SNCF ou encore d'autres associations amies. Squid succède dans la vie de Pascal à Jekyll, qui coule une retraite bien méritée auprès de Colette Tiltet, que nous avons interviewée dans le précédent numéro du magazine, CF Partenaire numéro 56. C'est une chienne joueuse et vive qui a retrouvé à cette occasion de nombreux autres chiens, mais surtout sa famille d'accueil, Ghislaine et Christophe Refaux, ainsi que son éducateur Martial Hercher, à qui elle n'a pas manqué de faire la fête. La remise d'un chien, c'est l'aboutissement de 18 à 24 mois de travail. C'est un moment fort, une mission qui s'arrête et une autre qui commence. C'est un passage de témoin entre salariés et bénévoles engagés autour de la mission. Une mission rendue possible, comme nous l'a rappelé Denis Maquin, le président du Lions Club Lyon Brotteaux-Pardieu, qui a remis ce soir-là à l'association un chèque de 3000 euros, grâce à tous ceux qui se mobilisent, à l'image des Lions Club, par leurs actions, leurs dons, leurs legs, en faveur du mouvement Chien Guide.
Roland Donzel et Denis Maquin présentent le fac-similé du chèque remis à l'association par le Lions Club Brotteaux-Pardieu dans les salons de l'Hôtel de Ville. Piste 8, la vie des chiens.
Arrivée, une ribambelle de nouveaux élèves, dont deux caniches royaux, Hunter et Huster, arrivés à l'âge de 5 et 8 mois, on rejoint l'école des chiens guides.
Assemblage de photos des nouvelles arrivées. Hunter et Huster, deux caniches royaux. L'un noir et l'autre blanc. Vaya, Vegas, Velours, Venom, 4 labradors sable. Vesta, Vibes et Virgule, 3 petits labradors noirs. Et enfin, Volt et Vortex, l'un de couleur sable et l'autre caramel.
Certificat d'aptitude au guidage. Twix, Sync, T-Rex et Skittle ont réussi leur CAG. Leurs essais et remises à de futurs bénéficiaires sont maintenant à planifier.
Portrait de nos quatre diplômés posant fièrement. Twix, Sync, T-Rex, Skittle. Une belle promotion de labrador sablé noir. Piste 9. La vie des chiens, retraite. Houston, Yago, Ixia, Jose, Jubel et Item sont désormais à la retraite. Madame Para nous a adressé un beau message pour sa chienne. Nous nous sommes rencontrés il y a 8 ans dans ton centre d'apprentissage. La première année où tu es arrivé à Tournus, tout le monde était enchanté de ta venue. Puis, nous sommes arrivés à la résidence senior de Chalon-sur-Saône, où tu as fait le ravissement de tous les résidents. Tu as été une chienne formidable avec moi. C'est pour cela que tu resteras à mes côtés jusqu'à la fin. Tes yeux pleins d'amour nous rappellent que tu es une chienne exceptionnelle. Je t'aime, ma douce item. Madame Para et sa chienne item posent par une journée ensoleillée dans un parc urbain. Jubel, labrador caramel équipé de son harnais, pose couché dans l'herbe. Sa maîtresse, accroupie, est à ses côtés.
Hommage. C'est avec tristesse que nous vous informons du décès de Freedom, ancienne chien guide, puis adopté par sa maîtresse Valérie Richard. Farouk, ancien chien guide de Christophe Séry, et adopté par la sœur de ce dernier. Guyane, ancienne chien guide de Daniel Dupré, et adopté par son ancienne famille d'accueil, la famille Quentin. Étoile, ancienne chien guide de Jacqueline Guillon, et adopté par la famille Thomas. Finesse, ancienne chien guide de Gilles Fenois, qu'il avait adopté à sa retraite. Opium, chien guide de Marie-Christine Rouche, et Pog, chien guide de Sylvie Amard, nous ont tous deux quittés prématurément suite à des problèmes de santé.
Réorientation. Pour des raisons médicales et comportementales, Socket et Tips ne deviendront pas chiens guides. Ils ont été adoptés par de superbes familles pour vivre une belle vie de chien de compagnie. Tispoon, quant à lui, est en formation chez Andy Chien pour devenir chien d'assistance. Portrait de Socket, Tips et Tispoon, trois labradors noirs. Piste 10. Dossier. Quel rôle pour les territoires ? Isabelle Bartasso, responsable de la délégation de l'Ain. Isabelle Bartasso et Mario Elgira, accompagnés de Ottawa, le chien guide de Mario, lors d'une action de sensibilisation à la déficience visuelle.
Isabelle Bartasso est depuis 10 ans très investie dans l'association des chiens guides d'Amérique de Lyon et du Centre-Est. Famille d'accueil depuis 2014, elle a éduqué 3 chiens guides et en a accueilli bien d'autres en tant que famille relais ou week-end. Administratrice et membre du bureau, elle est trésorière pendant 4 ans, avant de prendre le poste de secrétaire adjointe. Mais la fonction qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle qu'elle porte en tant que responsable des territoires, associée à celle de responsable de la délégation de l'Ain, pour laquelle elle a succédé à Jean-Paul Pérez. Une fonction qui lui plaît d'autant plus qu'Isabelle, de par ses fonctions de coach et de cadre du secteur médico-social, a accompagné plusieurs équipes. Des territoires plutôt autonomes. On entend par territoire 11 départements sur lesquels l'association est présente. En fonction de la configuration géographique de celui-ci, cela peut n'être qu'une partie d'un département ou le département tout entier. Chaque responsable de territoire a une certaine autonomie. Lorsqu'il reçoit des demandes de participation à une manifestation, il a toute latitude pour valider s'il se saisit de l'action et s'il accepte de constituer une équipe avec des familles d'accueil, des bénévoles, des maîtres chiens guides, en privilégiant la proximité. Il peut également faire appel ponctuellement à des membres du CA et ou à des salariés. Il est en relation avec le service communication qui gère les opérations de mécénat lorsqu'il s'agit d'une intervention en entreprise. Rôle et mission des responsables de territoire. Chaque responsable de territoire est l'ambassadeur de l'association sur son département. À ce titre, il porte de nombreuses missions. Représenter et faire connaître l'association, sa mission, ses valeurs. Être ambassadeur du mouvement Chien Guide. Participer à des manifestations locales et aller à la rencontre des acteurs locaux, comme les élus, les écoles, etc. Organiser des actions de sensibilisation, des ateliers, expliquer le processus d'éducation d'un chien guide, faire connaître les droits d'un chien guide et de son maître, expliquer que le chien guide est remis gratuitement, mettre en avant la générosité des donateurs, démystifier le handicap, expliquer les besoins et outils en matière d'accessibilité physique comme numérique, accueillir les personnes déficientes visuelles et les renseigner sur le chien guide, participer aux commissions communales d'accessibilité, transmettre les bonnes pratiques face aux chiens et a fortiori aux chiens guides. Des binômes indispensables. Dans chaque département, le responsable du territoire est plutôt un maître chien guide qui travaille en binôme avec une personne voyante, que celle-ci soit famille d'accueil, famille relais, famille week-end ou bénévole. Sur 11 départements aujourd'hui, 9 sont pourvus d'au moins une personne. Les binômes se constituent à des degrés divers. Localement, ils peuvent être assistés par des bénévoles résidant dans leur département. Ils peuvent aussi solliciter l'aide d'autres responsables des territoires avec qui ils ont créé des liens. Des réunions qui jalonnent l'année. L'équipe se réunit 4 fois par an en visioconférence ou se rencontre sur le site de l'association lors des journées de territoire. Cela permet à chacun non seulement d'exprimer les difficultés rencontrées, mais également à l'équipe de bien se connaître, de se faire confiance et ainsi de s'épauler, de se donner des conseils. Les journées de territoire sont aussi l'opportunité de faire intervenir, chaque année depuis 2021, des spécialistes qui viendront renseigner les responsables, par exemple sur le droit des animaux, le bien-être animal ou tout autre sujet susceptible de les intéresser. C'est l'opportunité aussi de rencontrer des salariés et des bénévoles qu'ils ont régulièrement au téléphone mais ne se rencontrent pas nécessairement. Rôle du responsable de tous les territoires. Isabelle nous dit « L'important pour moi, c'est de les accompagner pour que chacun trouve sa place, que chacun fonctionne à son rythme. Je passe du temps pour les accompagner en amont, puis en aval des manifestations. » L'objectif est de s'adapter au public à chaque fois. Parfois, la difficulté est de savoir s'il est pertinent ou pas de se rendre à telle ou telle manifestation. Lorsque l'on sait qu'une manifestation pour la première fois, on ne sait jamais si on aura du monde ou pas. S'il n'y en a pas, cela peut vite être décourageant. Dans ces moments-là, la force de l'équipe est clé, voire elle se trouve renforcée par ce temps inattendu passé ensemble. Un travail de longue haleine. Une autre difficulté, c'est de ne pas savoir le temps que les graines que nous semons mettront à éclore. Une intervention peut donner des résultats tout de suite ou prendre quelques années. Isabelle nous dit « Mon objectif, c'est qu'à terme, chaque délégation soit une équipe de 4 personnes reconnues localement, constituée de l'ensemble des parties prenantes de l'association, bénévoles, familles d'accueil, maîtres chiens guides, et qu'elles puissent aussi aborder, en collaboration avec le président, le vice-président et la communication, les clubs-services et les entreprises. »
Piste 11. Dossier. Quel rôle pour les territoires ?
Sur le territoire 71, une infatigable ambassadrice. Christelle Vaupré habite Chalon-sur-Saône. Dans cette petite ville, chacun la connaît puisque ses pas sont guidés par des chiens guides depuis 2007. Des labradors portant fièrement leur gilet de chien d'assistance, ce qui n'est pas si commun. Dans la vie de Christelle, il y a d'abord eu Astuce, puis Jazzy, et désormais Sepia, un labrador beige. Avec ses compagnons à quatre pattes, cette maîtresse de chien guide œuvre sans relâche auprès des habitants du territoire, des élus, des associations, des commerçants, pour faire connaître la déficience visuelle et le rôle du chien guide, comme pour collecter des fonds afin de pouvoir remettre davantage de chiens à des personnes qui en ont tant besoin. Depuis presque 10 ans, elle a su tisser une communauté afin de toucher l'ensemble des populations, même si ce qu'elle préfère, ce sont les interventions auprès des scolaires qui n'ont pas de filtre et la touchent par leur spontanéité. Comment tu fais pour te doucher, pour manger, pour te brosser les dents ? Comment tu fais pour conduire ? Ce sont des questions récurrentes dans la vie des petits qui n'ont jamais été confrontés à la déficience visuelle. Animer un territoire, c'est créer des liens. Animer, c'est tout d'abord sillonner les rues, les villes de la Saône-et-Loire pour faire connaître le mouvement chien guide qu'il est peu. C'est aussi prévoir des événements tout au long de l'année. C'est participer à des forums, des sensibilisations et relayer toutes ces actions via des outils de communication. Maîtriser les outils de communication. Pour ce faire, Christelle s'appuie sur de nombreux outils. Elle a créé une page Facebook et plus récemment un compte Instagram sur lequel elle relaie aussi bien les activités de l'association que celles de son département. Régulièrement, elle sollicite aussi les journalistes de la presse locale pour communiquer. Côté événements, elle organise chaque année un joyeux pique-nique qui permet aux maîtres de chiens guides du département de se retrouver avec leurs chiens. Avec l'aide de responsables d'autres départements, elle participe aussi à des forums associatifs. Et, en fin d'année, elle adresse à toutes les parties prenantes du territoire des cartes de vœux rappelant la présence de l'association, via son intermédiaire, sur le département de la Saône-et-Loire, tissant ainsi des liens, créant un réseau de sympathisants du mouvement Chien Guide, qui non seulement donne de la visibilité à notre association, mais est là en soutien lorsque les fonds ou les bras manquent. Malgré des freins inhérents à la géographie du territoire lui-même. La plus grande difficulté réside sans doute dans la faible densité du territoire associée à l'éloignement des autres personnes déficientes visuelles ou des familles d'accueil, ce qui fait qu'il est plus difficile d'organiser des réunions fréquentes. Commerçants, clubs services et entreprises, des relais précieux. Aujourd'hui, je suis en relation avec un Lions Club à Chalon et ses membres ont participé au financement de mon deuxième chien, Jazzy. Mais il y a certainement des Lions et Rotary Club dans d'autres villes du département dans lesquelles il y a des bénéficiaires et que je ne démarche pas. Je n'ai pas encore sollicité les entreprises non plus. Alors qu'il y a quelques fleurons de l'industrie française à Chalon comme Saint-Gobain et Areva et qu'il y a un beau projet pour attirer des entreprises sur le territoire du Grand Chalon. Dans le cadre de leur politique RSE, ces entreprises pourraient aussi contribuer au financement d'un chien guide. En revanche, j'ai travaillé avec un certain nombre de commerçants qui m'ont proposé d'installer une tirelire et de pratiquer l'arrondi solidaire au profit de l'association. Un dernier souhait pour ton territoire ? J'aimerais recruter davantage de bénévoles pour m'aider sur le territoire. Reproduire ce que j'ai fait à Chalon dans d'autres villes du département, comme Paray-le-Monial, Mâcon, Le Creusot, Autun, Chauffailles, avec l'aide des bénéficiaires présents localement.
Christelle Vaupré, lors de la remise de Sépia dans les salons de l'hôtel de ville de Chalon. Christelle est accroupie à côté de Sépia, en compagnie du maire de Chalon. À l'arrière-plan, Urius, élève chien guide, qu'on devine tenu par Sandrine Boine, sa famille d'accueil. Piste 12, dossier. Quel rôle pour les territoires ?
Chambéry, un exemple de mieux vivre ensemble. Anne Vérolet est responsable du territoire de la Savoie, 73, qu'elle co-anime avec Yves-Henri Van Danabel. Bien qu'en activité, elle sillonne le département accompagnée par Mustang, son grand labrador noir de 8 ans, pour mieux faire connaître au grand public la déficience visuelle, mais également le chien guide, ce compagnon à quatre pattes qui redonne de l'autonomie et de la confiance aux personnes déficientes visuelles. Les Savoies sont des départements vastes et contrastés avec un habitat de plaine et un habitat de montagne. Sur ces territoires, les maîtres chiens guides, comme nous les nommons dans notre jargon, ne sont pas très nombreux. Ils sont de plus parfois séparés par des frontières naturelles, à savoir les montagnes et les lacs. Ce qui rend le rassemblement plus difficile. L'animation d'un tel territoire n'est donc pas aisée. Elle est cependant rendue intéressante par la réelle motivation de certaines collectivités, qui se sont emparées du sujet de l'inclusion de toutes les personnes en situation de handicap, avec beaucoup d'énergie, à l'image des collectivités qui composent le Grand Chambéry. Une collectivité particulièrement engagée. À Chambéry, donc, il y a une vraie volonté de collectivité de faire participer tous les acteurs du handicap aux commissions d'accessibilité. Cela se traduit de multiples façons. Mais en ce qui concerne la commission d'accessibilité, Anne participe à des réunions formelles qui font état des projets et de leur avancement. À visée informative, elles sont composées de nombreux élus, de techniciens, d'associations ou de citoyens qui souhaitent contribuer. À noter, le bilan annuel des travaux en matière d'accessibilité de la collectivité est présenté de façon accessible sur la chaîne YouTube de la ville de Chambéry, chaque année. Des groupes de travail de terrain. Pour ceci, la ville est divisée en quartiers et thématiques. Chaque groupe travaille sur un quartier et sur une thématique donnée. Anne participe au groupe Accessibilité et Handicap au centre-ville. Composé de 9 personnes, ce groupe effectue un travail de fourmi et de précision. Chaque lieu est passé au crible des différentes formes de handicap. Ce qui est intéressant, c'est de voir la complexité de la prise de décision pour les élus. Car ce qui convient à une personne déficiente visuelle guidée par un chien ne correspond pas nécessairement aux besoins d'une personne qui se déplace en fauteuil roulant ou avec une canne. Vivre la ville avec le chien qui évite les obstacles, ce n'est pas du tout la même chose que vivre la ville avec une canne. Avec le chien, il y a non seulement évitement d'obstacles, mais il fait aussi des choix judicieux. Ces déplacements du groupe de travail Centre-ville, Accessibilité et Handicap, rebaptisé Balade urbaine par les participants, durent 2 heures. Un travail important sur le relief du sol est également fait pour repérer les trous, les différences de niveau, les soulèvements d'enrobés liés aux racines, avec la possibilité pour les groupes de suggérer d'autres parcours. À l'issue de ces balades, un rapport assorti de photos est rédigé et remis à la collectivité. Celui-ci peut alors être croisé avec le rapport d'autres groupes, comme celui qui travaille sur les cyclables. Le croisement des deux est particulièrement riche d'enseignements pour les élus qui, une fois par an, avec les services techniques, se joignent au groupe. Initier un changement de regard. Cette attention portée à des détails de l'espace public provoque des questionnements chez les citoyens. Ils en apprennent ainsi davantage sur le fonctionnement municipal et cela permet de faire prendre conscience des difficultés qu'ont les élus pour résoudre les problématiques de chaque type de public. Nous, déficients visuels, nous avons découvert que quelques centimètres sur un seuil ou un dévers sur un trottoir peuvent tout changer pour une personne en fauteuil. A l'inverse, la personne en fauteuil a été surprise par la vélocité que donnaient nos chiens. Cette façon de procéder fait évoluer le regard de tout le monde sur tout le monde, et aussi le regard que les personnes handicapées portent les uns sur les autres. Les citoyens, les commerçants, les automobilistes aussi sont interpellés, car cette petite troupe de 9 personnes ne passe pas inaperçue. C'est l'opportunité pour ses membres de répondre aux questions, de renseigner. Pour les services techniques, aussi, c'est un atout, car ils ne peuvent pas se saisir de tout. Ces actions leur facilitent la tâche, leur permettent de prioriser. À certains endroits, tout est tellement mal pensé que cela engendre des travaux de très grande ampleur. Mais à d'autres endroits, il suffit de couper un buisson pour que la visibilité soit tout de suite améliorée, car la collectivité se montre très réceptive aux demandes des groupes de travail. Nous avons la chance d'avoir une collectivité hyper engagée et hyper réactive. C'est d'autant plus précieux qu'aujourd'hui, avec tous les modes de déplacement, il est difficile d'imaginer la complexité à laquelle les territoires doivent faire face. La commission d'accessibilité, qu'elle soit communale ou intercommunale, a été rendue obligatoire par la loi du 11 février 2005 pour les collectivités de plus de 5000 habitants. Constituée de représentants de la collectivité, d'usagers et d'associations représentant les personnes en situation de handicap, elle a pour objet de vérifier que l'accueil, l'entrée, la signalétique, la circulation dans l'espace urbain soient conformes au niveau d'accessibilité requis pour tous les publics, quelle que soit leur situation ou handicap. D'autres initiatives intéressantes en Savoie sur l'accessibilité sont disponibles sur le site internet de la ville d'Albertville.
Appel à bénévoles. Pour créer des dynamiques sur et entre les territoires, nous sommes à la recherche de bénévoles souhaitant s'engager auprès des personnes déficientes visuelles de façon régulière. Vous vivez dans l'un des 11 départements dans lesquels est présente notre association. Vous avez envie de vous engager auprès de l'association pour participer à des animations de sensibilisation. Remplissez le formulaire disponible sur notre site internet, menu « Nous rejoindre » ou en scannant le QR code présent en page 13 de votre magazine.
Piste 13, dossier, quel rôle pour les territoires ?
Travailler main dans la main avec les élus.
Pierre-Marie Micheli se dirige vers la gare Perrache à Lyon, guidé par son fidèle Lyrix. À ses côtés, un élu mis en situation de non-voyance, équipé d'une canne blanche et de lunettes occultantes.
Pierre-Marie Micheli est vice-président de l'Association des chiens guides d'aveugles de Lyon et du Centre-Est. Il est également président de l'association Point de vue sur la ville, une association lyonnaise militante qui œuvre pour l'accessibilité de la voirie, des transports, du cadre bâti et du numérique. Avec Lyrix, il sillonne la ville et bien plus encore. Il nous dit ici sa fierté de traverser la place Bellecour plus rapidement que les voyants, guidé par ce beau labrador Caramel. Intervenir sur plusieurs plans. Dans le cadre de ses mandats, Pierre-Marie est amené à travailler en grande proximité avec les élus et les techniciens, leur apportant une expérience d'usager. Il intervient au niveau local, celui du quartier, auprès des mairies d'arrondissement, avec notamment les commissions d'accessibilité, auprès de la ville de Lyon, au sein de groupes de travail, par exemple sur les ERP, auprès de la métropole de Lyon, au sein de groupes de travail sur le transport, la voirie, le numérique aussi, avec l'objectif d'aller toujours plus loin que la réglementation. Auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes, enfin, notamment sur le sujet du transport et de la continuité de cheminement, avec des bandes de guidage, des balises sonores. L'an dernier, la région Auvergne-Rhône-Alpes a d'ailleurs nommé la déficience visuelle « grande cause régionale », ce qui a permis, grâce à l'intervention de Madame Schex, le financement de 2 chiens guides et l'aménagement de l'hôtel de région avec l'application de localisation Evality. La volonté de travailler ensemble. Les réunions ont lieu presque tous les mois. Le quotidien de mes interventions se fait sur le terrain, avec les techniciens et les élus lors des plénières. Ce qui a vraiment évolué depuis une dizaine d'années, c'est qu'il y a de vrais échanges. Nous ne sommes plus obligés d'insister pour obtenir de nouveaux aménagements. Les techniciens s'appuient sur notre expertise, notre expérience d'usager, et ils sont vraiment à l'écoute, que ce soit au sein de la région, de la ville de Lyon ou de la métropole. Expérimenter la déficience visuelle. En complément de ce travail collaboratif, en commission métropolitaine d'accessibilité, j'ai proposé à Jean-Charles Collas et Fabien Bagnon, respectivement vice-présidents en charge du transport et de la voirie, qui ont tout de suite dit oui, d'expérimenter sous bandeau ce que vivent les personnes déficientes visuelles, en positif comme en négatif. L'objectif n'était pas de faire un sujet de communication, mais bien de donner un aperçu de ce que vivent les personnes déficientes visuelles. Ils ont donc expérimenté le pôle multimodal de Perrache, avec ses balises sonores, mais aussi la place des archives, un grand espace où l'on peut se sentir perdu avec la crainte du tramway qui passe. Ou encore le trajet de la métropole jusqu'à la gare Pardieu, avec le risque que les voies vélos sur les trottoirs peuvent représenter pour les personnes déficientes visuelles. Une région et une métropole bien équipées. À force de travailler ensemble, la région et la métropole de Lyon sont plutôt bien équipées en termes de balises et de feux sonores, ou encore de sonorisation du métro qui s'est faite dès l'origine. Nous sommes la seule métropole à être équipée à presque 100% de feux sonores, car lorsque nous avons travaillé sur ce projet, nous avons anticipé en mettant en place un plan d'équipement pluriannuel. Non pas pour contraindre, mais parce que pour nous déficients visuels, c'est un vrai besoin, un enjeu de sécurité et de liberté. Un soutien sur des sujets connexes. Toujours dans cette logique de continuité de déplacement dans l'espace public, les élus peuvent aussi nous soutenir sur des sujets qui impliquent des partenaires privés intervenant sur le territoire, comme avec les chauffeurs de taxi, Uber ou VTC, qui refusent parfois la prise en charge des chiens guides avec leur maître. Ce sujet, nous l'avons expérimenté à Lyon, mais également dans d'autres lieux. C'est donc tout naturellement l'ANM Chien Guide, l'Association nationale des maîtres de chiens guides, qui, au niveau national, s'est faite le relais de l'association et a contribué, par exemple, à la réalisation d'un film avec Uber pour sensibiliser à la prise en charge d'un maître de chien guide avec son chien. Tous les salariés d'Uber l'ont vu avant d'être embauchés. Créer des liens pour co-créer la cité. Au-delà de ces sujets bien balisés, notamment par la loi de 2005, d'autres peuvent paraître plus anecdotiques, comme la création de parcs pour la chaîne aux chiens dans l'espace urbain sans qu'ils dérangent. Ils sont cependant nécessaires à la qualité de vie des animaux comme de leurs maîtres. Et pour cela aussi, nous avons besoin de collaborer avec les élus. Le mot de la fin. Au niveau national, je siège dans la commission technique et accessibilité de la SNCF et je prends très souvent le TGV accompagné par l'IRIX avec le risque qu'il dérange ou que je ne trouve pas de place pour lui. C'est une source de stress pour une personne qui ne voit pas. Nous avons donc travaillé avec la SNCF, au Technicentre de Lyon-Gerland, avec une éducatrice, le président de l'association et 3 chiens, pour identifier les espaces où l'on pourrait loger les chiens sans que cela prenne trop de place sur tous les modèles de TGV. Et depuis peu, il est possible de cocher, lors de la réservation sur les TGV, depuis l'application et sur le site SNCF Connect et en billetterie, la case chien-guide. C'est une belle avancée. Quelle place pour le chien-guide en ville ? C'est le thème abordé lors de la table ronde qui a précédé la remise du 400e chien de notre association, cet été, dans les magnifiques salons de la mairie centrale de Lyon. Un thème qui a réuni bénéficiaires, avec leurs chiens bien sûr, entreprises partenaires, comme le Lyons Club qui se mobilise depuis toujours pour la vue, la SNCF qui œuvre pour des gares et des trains plus accessibles pour les maîtres de chiens-guides accompagnés de leurs chiens, et les élus, bien sûr, qui tentent de rendre la ville plus inclusive pour tous. Un thème qui n'est pas anodin non plus, puisque parmi les quatre piliers qui portent la volonté et le développement de l'association, on retrouve redonner de l'autonomie à la personne déficiente visuelle, favoriser son insertion sociale, professionnelle et citoyenne, sensibiliser le public à la déficience visuelle et à l'aide animalière, former à la mobilité, à l'accessibilité tant physique que numérique. Chacun a évoqué les projets portés par sa structure, conscient qu'il reste un long chemin à parcourir en faveur de l'autonomie, mais que de belles initiatives sont déjà présentes. À Lyon, par exemple, de nombreux feux et toutes les stations de métro sont équipées de balises sonores à destination des personnes déficientes visuelles. Quant à la SNCF, elle vient de proposer aux personnes accompagnées d'un chien guide de leur réserver une place plus spacieuse dans tous les TGV et intercités. Pour cela, il suffit de cocher la case « chien guide » lors de la réservation sur SNCF Connect. Un dispositif testé au Technicentre de Lyon-Gerland avec nos maîtres de chiens guides et leurs compagnons à quatre pattes. D'autres avancées sont en cours sur les sujets de la mobilité et de l'accessibilité. Merci à Pierre-Marie Micheli, vice-président de l'association, pour son engagement sur ce sujet.
Piste 14, Actu.
La flamme olympique. Sabrina Di Francesco, maîtresse d'Oxbo, son chien guide depuis 4 ans, et responsable de la délégation de la Nièvre, 58, fait partie des 10 000 relayeurs privilégiés qui ont porté la flamme des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Le mardi 25 juin, Sabrina a participé, aux côtés d'une vingtaine d'autres personnes, au relais collectif de la Fédération de triathlon de Franche-Comté, sur 400 mètres, à Besançon. Cet événement tant attendu qu'elle nous décrit comme magique et émouvant s'est déroulé sous les encouragements de son entourage, dont Oxbo, et d'une belle équipe de supporters de l'association de chiens guides d'aveugles de Lyon et du Centre-Est qui avait fait le déplacement. Sabrina repart avec des étoiles plein les yeux d'avoir pu vivre ce moment unique.
Sabrina Di Francesco, malvoyante, responsable de la délégation de la Nièvre, participait cet été au relais de la flamme olympique. Ici, sur la piste de relais entourée de spectateurs, elle saisit la flamme que lui transmet la relayeuse précédente. Elles sont toutes les deux vêtues de blanc. Mouvement des chiens guides d'aveugles. Deux personnes assises sur un banc dans un jardin public semblent partager un moment de complicité. L'une est une retraitée tenant un petit chien assis sur ses genoux. Elle sourit à l'autre. Un jeune homme portant des lunettes noires et caressant un chien assis à ses côtés, équipé de son harnais. Croisez générosité et solidarité en léguant une partie de votre patrimoine. Pour obtenir des informations sur les legs, assurance vie ou donation, demandez en toute confidentialité votre brochure à Lucien Chaline par mail leg@chienguidelyon.org. Leg est écrit au pluriel. Ou rendez-vous sur www.chienguideleg.fr. Chien guide leg, le tout au pluriel et attaché. Depuis plus de 50 ans, nos associations mettent tout en œuvre pour éduquer et remettre gratuitement des chiens guides aux personnes aveugles ou malvoyantes. C'est grâce à votre générosité que nous rendons possibles ces belles rencontres qui redonnent mobilité et autonomie aux personnes déficientes visuelles dans leur vie quotidienne. Grâce à votre leg, soutenez l'éducation et la remise des chiens guides. logo de l'association des chiens guides aveugles de Lyon et du Centre-Est, carte de l'ensemble des écoles fédérées.